La relation que vous avez avec votre cheval, elle en dit long sur la relation que vous avez avec vous-même. Bonjour à tous, ici Océane du podcast OlioJ, le podcast pour les cavaliers hypersensibles et connectés. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu émotions et relations avec le cheval. Commençons déjà par comprendre un peu comment l'humain se construit. Alors il faut savoir que l'humain, il est comme le cheval conditionné par rapport à ses expériences de vie, par rapport aux expériences de vie de ses ancêtres, qu'on appellera le transgénérationnel, et par rapport à tout un tas d'autres paramètres qu'on va pas développer aujourd'hui parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Alors pour le coup, le cerveau de l'humain, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup passionnée, parce que j'avais besoin de comprendre un peu pourquoi les interactions sociales se faisaient comme ci, comme ça, pourquoi certains humains étaient plus proches des animaux que d'autres, et notamment les cavaliers. Vous avez entendu, je pense, beaucoup de cavaliers, voire vous êtes certainement ce cavalier, qui dit « moi je préfère la compagnie des chevaux plutôt que ceux des humains ». Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans cette configuration à au moins l'avoir pensé une fois ou connaître quelqu'un qui le dit régulièrement. Donc je me suis intéressée à tout ça et aujourd'hui dans ce podcast, je vais vous partager ma compréhension de ce que j'ai appris et aussi des expériences que j'en ai eues. L'humain, comme le cheval, est un animal de groupe, donc c'est-à-dire qu'il va construire sa sécurité et sa survie en fonction de son appartenance à un groupe et à quelques besoins fondamentaux. Donc comme les chevaux, la sécurité fait partie des besoins fondamentaux, l'amour fait aussi partie des besoins fondamentaux des humains. D'ailleurs, je ne sais plus exactement où j'avais trouvé ça, mais il y avait une petite étude qui avait été menée avec des bols de riz. Et dedans, il y avait donc soit on lui disait des belles choses, soit on lui disait vraiment des choses horribles, et soit on l'ignorait. Et ce qui était ressorti, c'est que le bol de riz qui avait été ignoré, c'était celui qui avait le plus pourri. Donc ça quand même en dit long sur nos besoins, en tout cas d'être, faire partie du groupe, d'être vu, d'exister auprès de quelqu'un en tout cas. En complément, il y a aussi des études qui avaient été menées, alors je ne sais plus exactement sur quel type de bébé, je ne sais plus si c'était des bébés animaux ou des bébés... des bébés humains, mais en gros il y avait une expérience qui avait été menée où il y avait certains bébés qui n'avaient pas reçu de la nourriture, certains qui avaient reçu que de l'amour, pas de la nourriture mais que de l'amour, certains que de la nourriture, pas d'amour, voilà des choses comme ça, et ce qui en est ressorti c'est que ceux qui ont survécu le plus longtemps ou qui étaient le moins en problème, c'est ceux qui étaient nourris uniquement à l'amour. Donc ça en dit quand même long sur notre fonctionnement nous en tant qu'humains. Donc ces deux besoins fondamentaux, il y en a d'autres bien évidemment, mais ces deux besoins fondamentaux, c'est des besoins que certains enfants ne reçoivent pas ou pas complètement. Il y a par exemple ce qu'on appelle de la négligence émotionnelle. Donc c'est par exemple des situations où l'enfant va être nié dans ses émotions, nié dans ce qu'il ressent, nié dans ses besoins. D'autres vivent des violences, d'autres vivent des situations où ils ne sont pas comblés complètement ou simplement partiellement dans leurs besoins, notamment de sécurité et d'amour et de tout ça. Et tout ça, ça va créer des constructions un petit peu bancales chez l'humain. En réalité, ça va pas faire des humains bancals, mais ça va faire tout simplement des humains qui cumulent un certain nombre de blessures émotionnelles et du coup qui vont créer des mécanismes de survie très tôt dans l'enfance. Bon, alors spoiler alert, c'est un peu la plupart des humains, notamment dans notre civilisation et dans notre culture actuelle. On sort quand même de générations où on explique qu'il faut faire pleurer les bébés, qu'il faut dire « oh, c'est rien », qu'on n'a pas le droit de pleurer. Alors surtout, je pense aux hommes notamment, qu'on ne leur laisse pas le droit de pleurer. Ou plutôt que le parent va se retrouver malgré lui être le vecteur de honte, d'humiliation, d'abandon, de blessures qui vont entraîner des mécanismes de survie chez l'enfant, d'un point de vue émotionnel bien sûr. Alors attention, on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit parce que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et notamment avec sa construction personnelle. On est là pour comprendre comment nous fonctionnons et comment ça se répercute dans notre quotidien et spécifiquement avec nos chevaux. Donc on vit dans un monde où on nous apprend pas vraiment à gérer nos émotions ni à remplir, on va dire, nos jauges de besoins fondamentaux comme la sécurité et l'amour. En tout cas, on nous apprend pas à l'auto-remplir, on nous apprend plutôt à essayer d'aller la combler à l'extérieur. Et ça, c'est pas du tout productif. Donc les blessures de l'enfance, elles sont construites par les expériences qu'on a, par le transgénérationnel et principalement avec les interactions qu'on a avec les personnes qui vont prendre soin de nous, que ce soit les parents et toutes les personnes qui vont prendre soin de nous. quand nos besoins ne sont pas rencontrés ou que nos émotions sont niées ou qu'on ne nous a pas appris à, par exemple, on a une grande émotion et personne ne nous aide à en faire quoi que ce soit. Par exemple, d'un coup, on est en colère parce qu'on est frustré et on se fait crier dessus. Ce que l'enfant va comprendre dans ces moments-là, c'est qu'il a un problème, donc il va créer un mécanisme de survie pour ne plus avoir ce comportement et ne plus perdre l'approbation, ne plus perdre, entre guillemets, l'amour et la sécurité que l'adulte lui offre. Parce qu'un enfant, jusqu'à un certain âge, il dépend complètement des adultes pour survivre, donc sa survie complète dépend du rapport qu'il a avec les adultes. Donc forcément, il va faire en sorte que ce rapport soit le plus sécurisant pour lui possible pour garantir sa survie. C'est mécanique. Et donc ces mécanismes de survie, ils vont survenir un peu toute notre vie. Il faut savoir aussi que l'enfant, jusqu'à un certain âge, il pense qu'il est une extension de son parent. Et en étant une extension de son parent, quand son parent se met en colère ou son parent, on va dire, le néglige ou montre une violence ou nie quelque chose, il va penser pas que le parent a un mauvais comportement, il va penser que c'est lui le problème. Donc c'est là qu'il va s'adapter et développer des mécanismes, notamment avec le fait de nier ses émotions, donc de ne plus vouloir exprimer une émotion. Par exemple, on a parlé de la colère juste avant. Si vous faites gronder quand vous êtes en colère ou si vous êtes abandonné quand vous êtes en train de pleurer et que vous finissez en colère, etc., votre cerveau il va analyser que la colère n'est pas une émotion qui est sécurisante d'exprimer. Donc par exemple, quand vous vous retrouvez face à cette émotion pour vous, vous ne pouvez pas la maîtriser ou vous avez du mal à la maîtriser, ou vous vous mettez strictement jamais en colère, ou alors quand vous la rencontrez, c'est quelque chose qui est difficile pour vous de côtoyer. Donc maintenant qu'on a posé que l'enfant se construit par rapport aux attitudes, entre guillemets, aux expériences qu'il va avoir avec les personnes qui prennent soin de lui et dont il dépend, on va pouvoir comprendre que l'impact de ces personnes-là, elle va être énorme sur notre développement et sur notre construction. Et elle va conditionner, programmer nos comportements, mais aussi les choses auxquelles on est sensible, les choses auxquelles on peut avoir peur. Ça va conditionner vraiment pas mal de choses, pour être honnête. Le docteur Lindsay Gibson a fait un ouvrage qui s'appelle « Se construire avec des parents immatures ». Je vous invite à le lire parce qu'il est fantastique et il aide beaucoup à comprendre nos comportements en tant qu'humains. Et dedans, elle parle du fait qu'on est dans une société où on rencontre beaucoup d'immaturité parentale parce que ses parents ont été un jour des enfants à qui on n'a pas expliqué comment gérer leurs émotions. Vous excuserez le bruit derrière, mon chat est en train de jouer. Et par immaturité parentale, on parle d'immaturité émotionnelle où les besoins émotionnels d'un enfant, les attitudes les fonctionnements émotionnels ou les paroles d'un enfant vont engendrer une réaction émotionnelle de la part du parent plutôt qu'un accompagnement. Pour rappel, un enfant, comme un cheval, n'est pas assez développé au début de sa vie pour comprendre les conséquences de ses actions. C'est à nous, en tant que parents ou gardiens par rapport aux chevaux, de savoir comment accompagner leur développement et aussi les réponses qui peuvent être justes ou pas, notamment quoi faire quand une émotion se présente, par exemple la peur, la colère, on en a déjà parlé, la tristesse ou quoi que ce soit. Sauf que lorsque le parent il n'a pas reçu entre guillemets cette formation quand il était petit, qu'il a été conditionné justement à ne pas savoir faire ça et à nier et à ne pas écouter et etc., ça crée de l'immaturité émotionnelle et du coup ça crée des adultes enfants qui vont après élever des enfants qui deviendront eux aussi des adultes enfants parce qu'ils n'ont jamais pu partir de leur cerveau enfant vers le cerveau adulte puisqu'ils n'ont pas reçu entre guillemets la formation nécessaire pour avoir un rapport sain avec leurs émotions et du coup ils vont développer tout un tas de blessures émotionnelles qui vont créer des mécanismes de survie et ces mécanismes de survie seront des comportements face aux émotions. Par exemple, rejeter toute forme d'émotion, par exemple chez les chevaux ça va se représenter où votre cheval il vous exprime un mal-être et ça va soit vous culpabiliser, soit vous angoisser, soit vous allez vouloir vous sacrifier pour faire 50 000 trucs ou alors vous allez carrément dire oh, c'est bon c'est rien, c'est une chouchoute quoi. Et c'est cette compréhension-là que je trouve super intéressante à appliquer à l'équitation, notamment avec les chevaux, parce qu'il faut quand même penser que les chevaux, c'est un peu comme des petits gamins qui ont grandi dans un monde qui leur est propre. Ils connaissent pas forcément les paramètres de notre monde à nous, notamment, il faut pas oublier que les chevaux, c'est des proies, donc ils vivent dans un monde où la peur, elle est très présente, elle est naturelle chez eux parce qu'elle leur permet de survivre. Et nous, on leur met dans un monde humain, on leur dit, bah voilà, tu vas pas fonctionner comme ton espèce normale, et puis on veut pas tes réactions de peur, là elles ont pas d'utilité. Sauf qu'on le fait pas forcément de manière très très mature parce que on ne sait pas accompagner, émotionnellement parlant, la construction d'un individu parce qu'on ne s'est soi-même pas accompagné en tant qu'individu et on ne nous a pas appris comment faire. Personnellement, je trouve ça fou parce que je trouve que le métier le plus difficile de la Terre, c'est le seul métier auquel on n'est absolument pas formé, c'est celui d'être parent ou gardien. Parce que purée, il en faut des connaissances pour former un individu quand même. Surtout si on part du principe que nous-mêmes, on n'est déjà pas très bien construit à la base, étant donné qu'on n'a pas forcément reçu tout ce qu'on avait besoin. En effet, suivant ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est un peu comme si nos jauges, elles n'étaient pas remplies des bonnes choses et qu'on avait dû créer des mécanismes pour que la maison, elle s'écroule pas. En gros, c'est un peu comme si nos fondations, elles étaient bancales et que notre maison, elle tenait tant bien que mal. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui souffle dessus, ben, notre maison, elle n'est pas contente. Soit elle s'écroule, soit elle se fissure, soit elle montre des dégâts quelconques qu'on peut voir à l'extérieur et parfois à l'intérieur. Sauf que forcément, nous, en tant que gardien de chevaux, on n'a pas envie que notre cheval il ait une maison bancale, on a envie qu'elle soit solide et qu'il se sente bien dedans. Et pour ça, il faut qu'on apprenne d'abord, nous, à construire notre maison intérieure, et une fois qu'on sait comment notre maison intérieure, elle peut être solide avec des bonnes fondations, là, on peut accompagner un individu à se créer des bonnes fondations. Donc la relation avec votre cheval, elle en dit long sur la relation que vous avez avec vous-même, parce que par exemple, si vous avez des difficultés à gérer ses émotions, si vous avez des difficultés à appréhender la peur, si vous avez des difficultés à ne pas stresser qu'il aille mal, si vous avez tendance à vous sacrifier pour votre cheval, tout ça, ça va vous donner des indices sur votre construction personnelle, sur éventuellement là où vous avez souffert de manquements. Là où vous avez peut-être des fragilités, est-ce qu'il y a des émotions que vous avez plus de difficultés à ressentir ou à exprimer ou à être à l'aise? Est-ce que quand tout se passe bien avec votre cheval, vous êtes en train de vous dire « merde, il y a quelque chose qui va me tomber sur le coin du nez » Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous dire « ils sont pas en sucre et puis il va faire ce que je lui demande et c'est comme ça, je lui demande quand même pas grand-chose » Bah, tout ça, ça vous donne un peu des indices sur votre propre construction personnelle. Donc l'idée, c'est de savoir quelle construction vous avez envie de donner à votre cheval et quelle relation vous avez envie de construire avec votre cheval. Est-ce que vous avez envie d'avoir une relation de codépendance, dans le sens où, par exemple, si votre cheval meurt, vous avez l'impression que tout votre monde s'écroule et que votre vie ne va s'arrêter là? Est-ce que vous avez envie de faire toute votre vie par rapport en fonction de votre cheval? Est-ce que vous avez envie que votre cheval y soit épanoui dans la relation avec vous autant que vous? Est-ce que vous avez envie de tout donner à votre cheval et vous, c'est pas grave? Ou est-ce que vous avez envie que votre cheval vous donne parce que vous, vous faites des choses aussi en conséquence? Est-ce que vous avez envie que votre cheval y fasse ce que vous lui demandez et c'est tout? Tout ça, ça vous donne vraiment des indices sur votre construction personnelle. Si vous êtes tendance à pas avoir envie d'écouter votre cheval et il fait « bon, c'est bon, je lui demande quand même pas grand-chose, il va faire », et bien tout ça, c'est des choses qui vous ont été inculquées indirectement ou directement dans l'enfance. C'est intéressant quand même. De même manière, si vous avez tendance à vous hyper sacrifier et à faire attention à tout ce que votre cheval il peut ressentir, faire, même presque pas oser lui demander des choses, et bien peut-être que dans votre enfance, vous aviez des parents qui attendaient de vous que vous réguliez entre guillemets leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils attendaient de vous que vous ne les rendiez pas fâchés ou que vous ne suscitiez pas des émotions difficiles chez eux. Et c'est le cas de beaucoup de parents et de beaucoup d'enfants. Et j'ai remarqué que c'est le cas de beaucoup de cavaliers. Ça crée après un profil de cavalier un petit peu parfait qui essaye de faire tout pour son cheval et qui s'en épuise. Vraiment. Donc, en gros, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la relation qu'on a avec nos chevaux qui viennent de blessures passées, ou en tout cas de construction et de conditionnement passés. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler pour apporter un équilibre dans la relation. Personnellement, je pense que pour avoir une relation saine avec le cheval, déjà, il faut sortir de tout ce qui est codépendance, attachement un peu anxieux, attachement fuyant. Toutes les parts de relation où, en gros, votre bien-être il dépend de votre cheval et de son bien-être à lui. Et aussi toutes les relations qui, à l'extrême, votre bien-être passe avant celui du cheval. Pour moi, quand on rentre dans une relation avec quelqu'un, c'est important que les choses soient équilibrées, que chacun y trouve 50-50 ou parfois 40-60, 60-40 de l'autre côté. Enfin, les choses évoluent progressivement. Mais si la relation est tout le temps déséquilibrée, pour moi, c'est pas une relation qui est saine. Et c'est ce que j'avais envie de vous apporter avec cet épisode de podcast. J'avais vraiment envie de vous apporter des connaissances sur pourquoi on a un peu le genre de relation qu'on a avec nos chevaux et savoir aussi que c'est des choses qu'on peut modifier pour aller vers de l'équilibre. Parce que tout ça, si c'est des blessures, si c'est des conditionnements, c'est des choses qu'on peut changer. On sait bien que sur des chevaux qui ont été traumatisés ou des chevaux qui ont vécu des bourrages pas très simples pour eux, on arrive à reconstruire de meilleures expériences pour eux, bah c'est la même chose pour nous. Le processus de reconstruction des fondations, elle est faisable aussi comme les chevaux qui ont été débourrés un petit peu violemment. C'est la même chose. À savoir que tout ce que je vous ai expliqué, ça rentre dans la catégorie des violences émotionnelles et en fait c'est très violent. C'est aussi violent que des violences physiques parfois et ça peut engendrer même du côté traumatique. Donc il y a même certaines personnes qui souffrent de stress post-traumatique, de choses qu'ils ont vécues dans l'enfance d'un point de vue émotionnel, donc de violences émotionnelles. Par exemple, le parent qui fait la gueule, ou qui ignore son enfant, ou le parent qui nie les besoins de son enfant, le parent qui va se fâcher quand l'enfant il exprime un besoin. Encore une fois, c'est pas pour blâmer les parents, au contraire, c'est plutôt pour comprendre qu'il y a des conditionnements qui se jouent depuis des générations et que peut-être on peut choisir de déconditionner et d'arrêter de jouer dans ces conditionnements. Déjà pour soi, mais aussi parce qu'on a quand même la responsabilité d'un animal qui est hyper sensible dans nos mains, qui est le cheval. Et je crois qu'il mérite quand même qu'on puisse avoir cette approche un petit peu plus saine avec nous-mêmes pour pouvoir avoir une approche un peu plus saine avec eux-mêmes. Parce que quand on dépend exclusivement de notre cheval, le problème c'est que ça met quand même un poids énorme d'un point de vue émotionnel sur le cheval. Et quand au contraire on l'oublie complètement, donc à l'inverse de ce spectre de ce que je suis en train d'expliquer, ça crée aussi des grosses difficultés chez le cheval et chez nous dans les deux cas. Donc c'est vrai que je trouve que c'est important de pouvoir se dire, ok, est-ce que ma relation à cette heure-ci, elle est équilibrée? Et si elle n'est pas équilibrée, peut-être prendre connaissance de en quoi elle n'est pas équilibrée. Est-ce que je dépense trop d'énergie par rapport à ce que je reçois? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma relation? À quoi j'ai envie que ma relation elle ressemble? Qu'est-ce que j'ai envie que mon cheval ressente? Qu'est-ce que j'ai envie de moi ressentir? Et partant de là, de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change? Et surtout, qu'est-ce que ça reflète en moi? Et comment je peux avancer pour aller vers mon objectif? Par exemple, si mon objectif c'est d'avoir une relation saine et équilibrée et que je suis dans de la codépendance, par exemple mon cheval a une oreille de travers et je m'affole comme pas possible, et bien peut-être qu'il va falloir aller chercher les blessures dans l'enfance, aller chercher les conditionnements qui ont entraîné ça. Et ça passe par ressentir les émotions qui n'ont pas pu être ressenties parce qu'elles n'ont pas été accueillies ou qu'elles n'ont pas été entendues ou qu'elles n'ont pas été comprises tout simplement. Et tout ça, c'est un travail qui est honnêtement pas fun. Je vais pas vous mentir, c'est pas fun, c'est pas super drôle et je vous conseille de le faire avec une personne qui est vraiment qualifiée. Parce que c'est pas trop rigolo d'aller voir les souvenirs, ou en tout cas d'aller voir la part de nous qui est blessée encore et qui développe ce mécanisme de survie même à l'âge adulte parce qu'il se sent encore en danger, ou en tout cas qui a encore des... on va dire que les jauges ne sont pas encore remplies correctement ou elles se sont pas remplies de manière saine. Elles se sont remplies grâce à des mécanismes de survie. Et je vais vous donner un exemple con avec moi, enfin qui n'est pas con d'ailleurs, mais un exemple. Par exemple, moi, j'avais ce côté infirmière avec mes chevaux, c'est-à-dire que je me sentais hyper bien dans la relation avec mes chevaux tant que je pouvais leur apporter quelque chose. Et du coup, ça fait partie de ma construction où, quand j'étais petite, on m'a beaucoup demandé d'être... demandé. Les conditionnements, c'était qu'il fallait que je sois parfaite, que je fasse mieux que les autres, etc. Donc, j'ai dépensé des sommes astronomiques dans le suivi de mes chevaux. Et j'en ai fait vraiment de trop et je me suis même sacrifiée complètement parce que j'étais tout le temps dans cette ligne de performance inconsciemment. Il fallait que je sois performante dans être une bonne gardienne. Et ça, c'est pas sain du tout, ni pour eux, ni pour moi. Et c'est un conditionnement que j'ai dû travailler vraiment un peu sur tous les plans avant d'arriver à être pas anxieuse si, par exemple, je sautais l'ostéo une fois pour mes chevaux, je décidais finalement de faire un traitement un peu plus tard ou ils n'étaient pas tout le temps dans le confort. Et ça m'a beaucoup limitée avec ma ponette que j'ai débourrée. J'ai commencé le débourrage à 4 ans, j'ai fait du travail à pied pendant presque un an et demi, puis après j'ai commencé vraiment les débourrages montés 5 ans et demi passés. Et ça m'a beaucoup limitée avec elle parce que j'avais tellement peur de la mettre dans des espèces de souffrances émotionnelles ou de la mettre dans de la contrainte, ou etc., qui étaient en fait des blessures non résolues que j'avais quand j'étais petite parce que dans cette course à la perfection, j'avais pas exprimé un certain nombre de choses. J'en étais paralysée de lui faire ce genre de choses et j'avais vraiment des difficultés de lui demander plein de choses. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai souvent répété, alors je le fais encore différemment, mais avant c'était comme ça, je disais toujours que mes chevaux, ils étaient parfaits. Dès qu'on me demandait, oh, ta séance elle était bien, oui, ma jument était parfaite, mon cheval était parfait, ma ponette était parfaite. Et quelque part, c'était comme un gage de qualité parce que dans mon conditionnement, dans ma tête, quand j'étais parfaite, j'étais récompensée de l'amour de mes parents. Alors bien sûr, je dis pas que mes parents ne m'aimaient pas, hein, au contraire, mais effectivement, j'avais, on va dire, un grand prix d'amour quand j'étais parfaite ou quand je montrais une certaine forme de perfection. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû désapprendre avec mes chevaux parce que ça me mettait vraiment des grosses entraves. Donc, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un post Insta il n'y a pas longtemps où j'expliquais justement que le corps, il se met des indices. Le corps et aussi nos réactions, il se met des indices sur notre construction et sur nos blessures. Et c'est exactement l'objet de cet épisode-là. Donc maintenant, vous avez compris. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas d'investiguer pour être parfait. Au contraire, c'est vraiment d'investiguer pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que moi, mes objectifs, c'était de faire certaines choses avec ma ponette. Et du coup, comme j'osais pas avancer, ben, je pouvais pas rentrer dans ces objectifs-là. Et maintenant que j'ai dépassé ça, eh ben, on est en train de remplir les cases de mes objectifs que j'ai avec ma ponette, tout en conservant son intégrité émotionnelle, physique et mentale, et en conservant mon intégrité également. Donc à chaque fois que je rencontre une petite difficulté avec mes chevaux, ou que j'ai du mal à avancer avec mes chevaux, ou que je sens qu'il y a des choses qui vont pas dans la relation, c'est vrai que je me reviens toujours à moi-même et je me pose l'interrogation, ok, qu'est-ce que je donne moi comme change dans la relation, et pourquoi c'est ce que je donne comme change dans cette interaction? Bon, bien sûr, le cheval, il fait aussi partie de l'équation, mais cette approche-là, elle permet vraiment de reprendre notre responsabilité dans ce qu'on donne comme équilibre dans la relation, et ça permet vraiment aussi de retourner à soi, et ça permet aussi de quelque part de laisser le cheval nous guider vers une guérison de choses qu'on n'a pas besoin de porter dans notre vie quotidienne, parce que ce qu'on rencontre avec le cheval, comme on est dans une relation de cœur à cœur, forcément, ça va appuyer sur les mêmes blessures que ce qui était dans les relations de cœur à cœur, notamment avec les parents, mais en tout cas avec les personnes qui ont pris soin de nous. Et du coup, l'idée de tout ça, c'est pas de plus avoir de blessures un jour, mais c'est plutôt de se dire, ok, ça, c'est quelque chose qui me gêne dans ma vie de tous les jours. Comment je peux faire pour que ça ne me gêne plus? Par exemple, s'il y a des choses qui vous créent de l'anxiété, de la dépression, si ça vous empêche d'avancer, tout ça, ça peut être se dire intéressant, ok, j'ai des conditionnements, j'ai des constructions qui se sont faites dans l'enfance. Qu'est-ce que je peux changer pour que ma maison elle soit plus stable et elle soit plus juste pour moi et dans notre configuration aussi pour notre cheval? Voilà, c'était un peu intense tout ce que je viens de vous dire. J'espère que vous avez compris ce que je vous disais. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous referai un épisode un peu plus clair. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses. Moi, je vous invite à lire Se construire avec des parents immatures parce que franchement, ça a été la révolution pour moi de comprendre plein de choses. Parce que, en gros, je vais vous expliquer, mon cerveau, il fonctionne d'une manière assez simple. C'est que moi, j'ai besoin de comprendre les choses pour pouvoir avancer. Parce que quand je comprends pas des choses, si ça fait pas sens pour moi, mon cerveau, il bug dessus vraiment. Mais quand je vous dis qu'il bug, il bug à fond. Donc, il y a certaines blessures, moi j'ai eu besoin de comprendre pourquoi les interactions étaient comme ça à la base et pourquoi on avait ce genre d'interaction avec les chevaux pour pouvoir avancer. Et là, ça me permet aussi de vous le partager. Donc, pour résumer, on est conditionné par ce qui nous a été fourni quand on était petit. Donc, pensez bien que sur les jeunes chevaux, c'est hyper, hyper, hyper important de conditionner un cheval correctement. Donc pour moi, correctement, c'est de lui construire la sécurité pour qu'il puisse développer la confiance en lui et surtout qu'il développe une certaine confiance en nous. Donc qu'il se sente en sécurité avec nous et du coup qu'il se sente en sécurité avec lui, c'est la base et c'est aussi la base chez l'humain, chez le jeune humain. Si vous n'avez pas eu l'opportunité de construire la sécurité enfant, par exemple votre parent il n'était pas souvent là, c'était vous qui élevez, je sais pas, vos frères et vos sœurs, vos parents ils étaient émotionnellement pas très matures, forcément vous allez vous rencontrer un sentiment d'insécurité régulier et vous allez reproduire les schémas avec votre cheval et en reproduisant les schémas avec votre cheval, vous allez pas quelque part vous empêcher de vivre la totalité de la relation avec votre cheval. Vous allez simplement répéter un schéma plutôt que peut-être de profiter complètement de votre cheval. Donc l'idée de mon podcast, c'est vraiment de vous dire que quand il y a des choses qui sont difficiles avec votre cheval, c'est pas toujours chez le cheval qu'il faut regarder. Je dirais même que la source number one, c'est chez nous parce que c'est celle qu'on peut modifier le plus facilement puisque c'est nous qui prenons la décision de le modifier, pour après pouvoir laisser le cheval s'adapter au nouveau paradigme qu'on lui propose. Par exemple, si on avait tendance à s'énerver quand il avait peur, et bien forcément, si on ne s'énerve plus et qu'on arrive à accueillir l'émotion sans que ça nous procure, nous, une émotion, et bien on va pouvoir mieux l'accompagner, mieux l'aider dans sa réaction de peur. Si par exemple, quand le cheval fait ceci, nous, on prend peur et qu'après, on ne prend plus peur parce qu'on a changé notre paradigme intérieur et notre équilibre intérieur, le cheval va pouvoir donner des nouvelles réponses. C'est vraiment cette idée que je voulais vous fournir dans ce podcast, c'est de savoir où vous pouvez aller chercher les choses. Donc là où vous pouvez aller chercher les choses, ce sont dans votre construction dans l'enfance et notamment les interactions que vous avez eues avec les personnes qui vous ont pris soin, qui ont pris soin de vous. Si par exemple, ils vous ont beaucoup humilié, entre guillemets, sans vraiment le vouloir dire, mais oh, c'est bon, ça va, t'as rien, oh là là, bah, quelque part, ils vont charger certaines émotions avec d'autres émotions, donc c'est pas clair. Et du coup, vous n'allez pas être clair avec vous quand quelqu'un d'autre va se proposer une émotion qui est similaire que ce que vous proposiez à l'époque à vos parents. Donc vous allez réagir de la même manière que vos parents en disant « Ah, c'est bon !» Par exemple, votre cheval, il a peur d'un sac plastique, vous allez lui dire « Ah, c'est bon, enfin t'abuses, t'es une chouchotte !» Non, il abuse pas et non, c'est pas une chouchotte, c'est une proie. Donc il ne sait pas identifier ce qu'il a devant lui, donc c'est un danger pour lui. Donc il réagit tel que son corps est conçu pour réagir. Et en travaillant sur vos réactions, vos conditionnements émotionnels, vous allez pouvoir vous en libérer et donc en libérer aussi votre cheval. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une séance de relaxation, cette fois-ci à pied. Si vous avez envie d'investiguer plus, je vous invite à acheter ce livre. Vous pouvez aussi en parler avec votre psy si jamais vous avez des petits blocages et que vous vous êtes suivi par un psychologue. N'hésitez pas à lui parler de vos petits blocages, peut-être qu'il saura vous aider. Attention, il doit tout de même être spécialisé dans tout ce qui est construction et traumatisme de l'enfance et avoir ces informations dans son background. Je propose également des accompagnements si vous avez envie de travailler avec moi spécifiquement. Et je vais vous parler un peu plus de tout ça dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir. Oh, et petit bonus. Pour ceux qui ont tendance à tout donner à leurs chevaux, commencez à vous donner un peu à vous. Parce que c'est le miroir que vous avez de besoin à combler. Allez, à bientôt.